Et bonjour, quatrième et dernière émission autour de ce festival, donc je vais dire le nouveau festival Radio France Occitanie Montpellier 2025. Vous savez qu'il avait lieu cette année de manière assez courte, entre le 6 et le 19 juillet, c'est pas fini encore. Et aujourd'hui, bien, j'ai eu la chance de rencontrer une magnifique gambiste. Parce qu'elle sait ce qu'elle a à dire et qu'elle a donné au moins 5 concerts, un sur Montpellier, un à Sussargues et un à Pillan, donc toute seule avec une violoniste, voilà. Téléman à Bellebac, et puis ensuite avec son ensemble Théodora, elle en a donné un le 15 juillet à Sossan, Mathéis, Dieu, Parfinger, Abel, Youb et Pléford. Voilà, alors j'ai eu la chance de la rencontrer et elle va nous dire tout un tas de belles choses. Alice Trosselier, si j'ai bien vu, ça fait au moins 2 fois que vous venez à Montpellier, au festival en particulier.
Oui, c'est ça. J'ai eu la chance d'avoir la confiance renouvelée du festival pour cette année. Et cette année, j'ai pu venir. L'année dernière, j'étais venue avec une chanteuse, Emilia, je sais plus son nom.
C'est pas grave.
Qui avait gagné en fait le concours Corneille en Normandie de voix. Et donc je l'avais accompagnée, on m'avait demandé à cette occasion-là de faire un solo dans la cour de l'hôtel de Castries. Très bel endroit, oui.
Et ça devait cuire un peu, non ? On ne cuisait pas ?
Alors c'était bien fait, j'étais sous les arches en fait,
dans la
cour intérieure, en fin de journée, donc ça allait. Et puis...
Et cette année, vous êtes venu avec un ensemble.
Votre ensemble, on est 4, il n'y a pas vraiment de chef, mais on est 4.
La gambiste doit pas être loin.
On est 4, on s'appelle l'ensemble Théodora, et voilà. on a créé notre ensemble aux sorties de nos études à la Royal Academy de Londres, de musique de Londres.
C'est pour ça, Théodora ?
Théodora, c'est pour la petite histoire, c'est Handel, mais en fait, il nous fallait un nom pour un tremplin jeune talent du festival d'Utrecht, qui est un grand festival de musique ancienne. Et c'était vraiment la veille au soir, et en fait on est très amis avec une fille qui est pas musicienne en tant que groupe et qui se trouve s'appelait Théodora, et pour la petite blague voulait vraiment faire partie de l'ensemble mais ne pouvait pas parce qu'elle n'était pas musicienne.
Oui, c'est un peu ambigu.
Et donc voilà, on a toujours trouvé son nom très poétique. Voilà, on est 4 filles, et puis en effet la référence à Handel est jolie aussi, donc voilà. Comme on s'est trouvé 4 expats sur le sol anglais, pourquoi pas avoir Handel en référence.
Bien. Et vous faites aussi des concerts avec un violoniste, il me semble, je ne me trompe pas.
Bah justement, Louise Ayrton, qui est ma collègue au sein de l'ensemble Théodora. Donc on a eu la chance cette année de revenir au festival de Montpellier avec Louise en duo autour de la musique anglaise. Et moi, j'ai deux solos, un hier et un ce soir, dans les caves de Pignan, ce soir.
Il faut faire attention, hein.
Les caves. Attention, oui, oui. Non, je ne suis pas encore allée sur place, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un très bel endroit, donc voilà.
D'accord. Alors, en quelques mots, comment êtes-vous tombée à côté ou dans la gambe ?
Dans la viole de gambe ? Bah, c'est un peu de la triche. Moi, j'ai un papa claveciniste. Donc, de métier.
Trosselier joue.
Pierre Trosselier, c'est un claveciniste d'une soixantaine d'années, un peu plus maintenant, qui a joué beaucoup en musique de chambre et qui a été prof aussi beaucoup. Là, il part à la retraite. Et donc, j'ai commencé la viole. Prof à Paris, au conservatoire du 6e et à Aubervilliers. Et donc, moi, je suis tombée dedans. J'ai commencé la viole. Je savais pas que c'était un instrument bizarre, en fait.
Ah bon, bizarre, pourquoi bizarre, dites-moi.
Non, mais pas bizarre, mais en tout cas, qui sort de l'ordinaire. En tout cas, il y a plus de 20 ans maintenant. Ouais. C'était quand même pas hyper commun de commencer par la viole.
Excusez-moi, 20 ans, vous étiez pas bien grande.
Ouais,
ça existe, les petites gammes.
Oui, bien sûr. J'ai commencé la viole à 6 ans, donc en 2001.
Ouais.
Et oui, la viole, en fait, c'est un instrument qui existe en tailles différentes.
Oui, il y en a 4 ou 5, hein, c'est ça.
C'est ça, le consort de viole, on a plusieurs tailles, on a le dessus, le ténor, la basse, et il y a tout un répertoire vraiment écrit pour cette
forme. Ce qu'on appelle vulgairement la gamme, c'est la viole.
Oui, bien sûr, la viole de gamme. Et donc, il y a tout un panel de tailles de viols de gambe qui jouent ensemble. On a énormément de répertoires, notamment anglais, du 17e sublime où on entend des dessus, des ténors et des basses. Et donc ça a l'avantage pour les petits de commencer sur un instrument qui est réel.
Et on joue vraiment comme une gamme.
C'est le même accord. Et on le tient entre les jambes et c'est proportionnel à la taille de l'enfant.
Oui, c'est parfait ça. Donc vous avez commencé comme ça.
J'ai commencé comme ça. Et aujourd'hui, je l'enseigne à des petits qui commencent comme ça aussi.
D'accord. Alors est-ce que c'est une grosse différence? Je sais ce que vous allez dire, mais fait une grosse différence avec le violoncelle.
Oui, bah c'est sûr que rapidement on peut penser que il y a un lien de parenté entre la viole et le violoncelle.
Il y a eu des textes de Monsieur Leblanc, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait, Hubert Leblanc qui a écrit une défense de la viole de gambe contre les prétentions du violoncelle.
Sachant que le violoncelle était presque plus vieux.
Oui, c'est pas du tout une histoire de encore une fois d'ancêtre comme on peut le penser un peu rapidement. La viole se développe vraiment plus dans la famille des guitares, des luths. Et voilà, c'est... Après, il est certain que le violoncelle a pris peut-être une partie plus importante dans le paysage sonore. On a agrandi les salles de concert, et la viole a un peu perdu de son intérêt. On dit aussi qu'avec la Révolution, il y a eu des choses liées à cet instrument un peu lié à l'aristocratie.
Comme les clavecins, qui ont un peu servi de petit bois.
C'est ça. Après, encore une fois, il y a des subtilités à tout ça, mais c'est vrai que...
Parce qu'au point de vue puissance, une gamme n'a pas grand-chose à envier en violoncelle.
C'est plus... Quand même, je pense que c'est un instrument où on peut un petit peu moins forcer le son.
C'est lié aux cordes,
c'est lié à l'angle du chevalet, au fait d'avoir plus de cordes. C'est un instrument qui va moins bien réagir à quelque chose de un peu en force. Je pense que le violoncelle a plus de... Ouais, réagit mieux par rapport à ça. Donc si, je pense en termes de volume, on peut dire que souvent le violoncelle peut passer par-dessus, mais bon. Ça
et pourtant la gamme est plus large en termes d'ambitus.
Oui, en termes d'ambitus, ouais, on est une tierce en dessous. Après, c'est une corde qu'on n'utilise pas souvent. On voit comment, par exemple, Marin Marais l'utilise. On sait que c'est Monsieur de Sainte-Colombe qui aurait ajouté cette septième corde. Et c'est vrai que c'est très beau de voir aussi dans les pièces de Marais, quelques années après, il y a quelque chose de très particulier à l'utilisation de la septième corde dans le répertoire, dans la ligne soliste. Alors dans la basse, on l'utilise un peu plus, mais ouais, c'est une corde qui est pas utilisée non plus.
Oui, parce que bon, autant il y a des contrebasses à 5 ou à 6 cordes, et autant il y a des gammes à 6 ou à 7. Quoi.
Ouais,
c'est un peu ça l'idée.
Ouais, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Et vous, personnellement, combien avez-vous de gammes?
Eh ben moi, j'ai la chance d'en avoir 3 actuellement. J'ai une viole, celle que je joue ce soir, c'est une très belle viole de François Baudard, qui est un luthier belge que j'ai eu la chance de racheter à une dame, Anne-Marie Lasla, qui jouait beaucoup.
Ah oui, connue.
Vous connaissez, voilà.
Elle a arrêté? Non.
Ça fait un moment qu'elle a un peu levé le pied.
Elle était chez Christie à un moment.
C'est ça. Et voilà, elle a voulu vendre... Elle a voulu vendre ce très bel instrument donc, que j'ai depuis 2 ans.
C'est une copie d'époque hein,
C'est une copie d'un très bel instrument de Joachim Tilke, qui est un luthier allemand, qui réalise des violes très belles, très marquetées. Donc on a aussi des meubles en fait, de Tilke qu'on a retrouvés. Et c'est vrai que c'était clairement sa marque de fabrique, des marqueteries comme ça. Très, très complexe avec de l'ivoire, cailles de tortue, tout ça. Et donc moi j'ai une copie de cet instrument-là qui date des années 90. Et j'ai aussi une viole française de Jacquier qui est aussi très belle et voilà qui m'a beaucoup suivie et que je joue beaucoup en continuo quand je joue plutôt les basses pour d'autres instruments solistes.
Et quoi, les plus percutantes, elles sonnent plus?
C'est un modèle français, donc on a ce dos qui est plat. Je dirais que oui, dans les basses, je trouve quelque chose d'assez... d'un peu moins sombre que l'instrument allemand. Et j'ai une viole 6 cordes, une viole anglaise qui a été faite par Mathieu Pradels, qui est un luthier parisien qui est toujours bien actif dans le 11e arrondissement à Paris. Et qui est un très bon ami et qui m'a fait cette très belle viole 6 cordes.
Est-ce qu'elles ont un prénom, toutes les sont?
Ah, j'aurais pas vraiment donné de prénom. La viole de Tilke, je l'appelle la Fraulein. Parce oui, que bon, c'est d'accord. La viole allemande. Mais les autres, c'est vrai que j'ai pas forcément. Et après, la Jackie, elle a une tête. De comment il s'appelle? J'ai un trou. Scipion l'Africain.
Ah oui, ça peut arriver, oui.
Qui était romain en fait. Mm-hmm. Donc il a son casque, c'est une très belle tête, un dragon derrière et tout ça. Et puis ma viole anglaise, c'est un barbu avec une couronne, mais je vais pas encore donner de.
Ah d'accord. Parce que j'avais cru comprendre que chez les Gambits, ça se faisait de pas mal.
Oui, je pense que ça dépend des gens, personnes. Mais ouais. Ça peut être. C'est vrai qu'on a cette particularité-là. Oui, on retrouve beaucoup d'instruments avec des têtes sculptées. Ça existait aussi hein, chez les violons, les violoncelles, mais c'est vrai qu'à la viole, on en a peut-être en proportion un peu plus. Alors on dit que. C'est peut-être parce qu'à l'époque, on disait souvent que la viole était l'instrument le plus proche de la voix humaine. On a notamment cette magnifique pièce de Marais.
Moi, c'est le cornetto, la plus prochaine.
Non, mais de toute façon, c'est objectif. Mais c'est quelque chose, je crois que c'est Titon du Tillet, je ne sais plus. C'est dans des textes d'époque, en tout cas, qu'on retrouve.
Mais c'est vrai que.
Jean Rousseau aussi parle de. C'est un théoriste de la viole qui parle de cette corrélation avec la voix humaine. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on retrouve d'autant plus.
Puis il y a la pièce de Marais, les voix humaines
aussi.
Voilà. Bon, donc vous jouez, vous prenez votre viole selon le répertoire que vous jouez. Alors en gros, votre répertoire, c'est quoi? Ou si vous voulez, d'abord, celui que vous préférez le plus, c'est quoi? C'est Marais ou c'est son maître?
C'est drôle, moi j'aime beaucoup. Je sais pas, moi je m'y retrouve à plein d'endroits. J'aime beaucoup la musique d'ensemble en fait, j'aime beaucoup faire de la musique avec les autres. Là j'ai pu jouer de la basse sur un CD Marais de ma collègue et amie Noémie Lenoff. Donc là c'était un CD Marais et c'est vrai que c'est un langage tellement, c'est vraiment écrit pour l'instrument quoi. On sent que tout est très, très bien pensé, dans la basse aussi quoi, il y a des choses très idiomatiques. Donc c'est sûr que Marais, s'il fallait en choisir qu'un. Après, là, je me suis amusée dans mon récital d'hier et d'aujourd'hui de jouer du bac, des transcriptions, des partitas pour violon. Donc, c'est pas du tout écrit pour la viole, pour le coup, mais...
Oui, alors, c'est une nouvelle tendance, j'avais dû dire, chez les baroques. Le répertoire, en général, est immense. On va pas prendre, comme il a écrit, d'œuvres bac ou d'autres, mais de faire des transcriptions. Et, oui, et ça, c'est typiquement dans la façon d'être de l'art baroque, on dirait.
Oui, oui, c'est ça. On sait quand même, il y avait une vraie... c'est des choses qui s'autorisaient. Bach, notamment, dans son instrumentation, je pense, laissait aussi des libertés. On voit aussi comment lui-même, il réutilise des choses pour les amener dans d'autres pièces. Ou
celle des copains.
Oui, ou celle des copains. ou bien, faire prendre une sonate pour flûte, là, le transformer en sonate pour viol de gamme. Voilà. Donc, on se dit que si peut-être que c'est pas absolument aberrant de le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de très belles choses qui ont déjà été enregistrées. Donc, quand on est jeune musicien, jeune ensemble, on doit forcément un peu se creuser le crâne pour essayer de. Après, on a, je pense, le droit et c'est bien normal de réenregistrer des choses qui ont déjà été enregistrées, même si elles ont été bien enregistrées, très bien enregistrées parfois, parce que voilà, il y a quand même des chefs-d'œuvre qui s'écoutent, qui s'écoutent et qui se réécoutent. Mais c'est un challenge intéressant. Moi, là, je travaille en fait beaucoup sur des manuscrits en tablature.
Voilà, c'était ma question d'après.
Ouais, c'est vrai.
Oui, vraiment.
Et bien oui, c'est ça que je présente aussi dans le récital d'aujourd'hui. C'est en fait, on a cette chance, notamment liée vraiment à Internet et aux scans qui ont pu être faits dans les grandes bibliothèques nationales, Gallica, donc de la BNF, qui est vraiment un joyau de partage et de. C'est vraiment très très
là,
bien fait.
Là, vous avez droit à la partition originale.
Voilà, plus c'est ça. Moins. Alors là, c'est soit des éditions d'époque, il y a plein de choses comme ça sur Gallica, mais on a aussi des manuscrits, et pareil, des bibliothèques allemandes, Kessel principalement, moi c'est là que je recherche aussi pas mal. À Berlin aussi, il y a des scans qui sont rendus publics, et c'est vrai qu'on a du coup un accès beaucoup plus facile à des pièces manuscrites qui étaient parfois pas du tout dédiées à l'édition. C'est-à-dire que là,
les trois quarts des bacs n'étaient pas pour l'édition.
Oui. Hein. Bah là, oui, c'est ça. Et puis, on a, par exemple, là, dans le cas de ces choses-là, on ne sait même pas forcément qui les a écrits. Oui. Moi, je travaille sur des transcriptions de par exemple, de Jean-Baptiste Lully.
Alors, lui, il paraît, vous allez me dire, si on m'a trompé, on m'a dit qu'il n'y avait rien de musical où on est sûr que ce soit, Lully qui a écrit.
Ouais. Alors, je ne suis pas experte de son...
Ça m'a un peu étonné, mais bon.
Donc, je ne pourrais pas confirmer ou infirmer. Mais c'est possible, ouais, c'est possible. En tout cas, il y avait beaucoup de copistes,
oui,
c'est certain.
Oui, ça c'est sûr. Il fallait arriver à mettre tout en place. Il n'y avait pas de photocopie.
Voilà. Mais là, dans ce cadre, c'est plus vraiment quelqu'un d'anonyme. Là, il se trouve qu'il y a trois lettres, JBR,
voilà.
qui est signé dans un manuscrit qui est de belle facture, mais...
C'est Rameau.
non, impossible.
Et oui, non, je m'en doute. Et qu'est-ce que je veux dire ? Dans ces partitions, on trouve tout, c'est-à-dire certaines où il y a tout écrit, d'autres où il n'y a pas la moitié d'écrit, non ?
Oui, c'est ça. Là, par exemple, dans cet exemple de Lully, on imagine vraiment que c'est quelqu'un qui l'a peut-être entendu dans un concert, peut-être même entendu à l'opéra. On sait que les opéras de Lully traversaient les frontières et rentraient chez lui dans ses feuilles de blanches de portée. C'est vraiment réécrit la mélodie pour le jouer à la viole, voilà, il l'a écrit en tablature, donc c'est vrai que c'est super intéressant comme travail de retrouver cette partition, et en tant que violiste, de lire ce que la personne a transcrit, de se rendre compte que parfois il manque des notes, ou il y a des notes un petit peu à côté de ce qui est réellement dans l'opéra, mais du coup il y a la question de se dire, est-ce qu'on garde ça, et puis surtout je pense on peut se le permettre vraiment, est-ce qu'on nourrit avec des accords plus complexes, des choses qui sont un peu dans le langage violistique naturellement quand on est face à une ligne assez simple, parce que sans doute que la personne le faisait aussi peut-être, si c'était dans ses capacités, mais qu'elle n'avait peut-être pas tout à fait l'envie d'écrire toutes ces notes.
Donc comme toujours, très compliqué quand on se retrouve face à une copie d'une partition, qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut enlever?
Oui, c'est ça, surtout dans ce cadre un peu de, a priori, un amateur, un violiste amateur qui a fait ça quelque part en Allemagne, qu'est-ce qui l'a poussé à le faire, et puis aujourd'hui... Est-ce qu'on peut pas s'amuser de voir en effet quels étaient les tubes? Parce que c'est ça qui est drôle, quoi. C'est vraiment là, c'est des chœurs, par exemple des chœurs d'Armide de Lully. Et bah, ça l'a amusé.
Ils sont beaux, ça, il faut dire. En général, c'est beau. Hein.
Et il écrit juste la mélodie, en fait. Et on retrouve ça aussi en Angleterre.
Mais Purcell a fait des choses aussi.
Il y a des en Angleterre, choses. On a même des choses, des éditions, en fait, de ce genre de choses. Des éditions d'Air, de Bononcini, de tous ces Italiens qui sont partis faire fortune à Londres à l'aube du XVIIIe siècle, quoi. Qui, là pour le coup c'est Walsh qui a carrément publié, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est genre un recueil des plus beaux airs, et donc c'est pour la viole seule, pareil, donc ça paraît un peu absurde pour nous, on est très habitué à avoir basse et mélodie, mais on a l'impression qu'en tout cas il y avait un marché sûrement un peu amateur, mais je pense pas que de gens qui voulaient pouvoir se rejouer à la maison des airs d'opéra sur leur viol dedans.
Il y a des partitions qui ont l'air très difficiles par rapport à l'autre, parce qu'on dit, on a dit pendant des années que Liszt, s'il transcrivait des opéras sur son piano, c'était pour qu'on puisse les jouer à la maison. Je ne l'ai jamais cru, moi, ça. Qui peut jouer chez... Quel est le pianiste amateur qui peut se permettre de... À mon avis, il y en avait d'autres dessous qui a simplifié. Oui. Est-ce que ce genre de choses existe?
Oui, bah c'est exactement de ça que je parle. C'est vrai qu'en termes de difficultés, mais c'est assez... Par exemple, dans cette édition anglaise, il y a quand même parfois des versions très ornées d'un air. Alors en effet, là, il y a presque 70 notes dans un archet comme des vocalises, quoi, presque. Mais la plupart sont quand même plus simplifiées. Dans ce manuscrit où on a des Lully en Allemagne, c'est vraiment pas compliqué. Je pense que c'est vraiment libre au, à l'interprète ensuite de rajouter des choses.
Parce que Handel, des fois, c'est pas compliqué, la musique. Je reprenais pas l'ancien, le créateur du festival ici. Ouais. On discutait souvent, je me faisais souvent engueuler. Et lui, il disait, Handel, c'est une maille à l'endroit, une maille à la mer. Mm-hmm. Bon, effectivement, il était compositeur, il a exagéré. Mm-hmm. Mais des fois, dans certains accompagnements d'air, on en a entendu il y a pas longtemps avec Christy, là, c'est vrai que ça fait un peu ça, hein, malheureusement.
Oui, oui, bah, on dit souvent, Handel, quand c'est bien deux fois, et quand c'est pas bien, c'est...
Parce qu'il y a les fameux d'Acapo, donc c'est très celle-là. Long. Oui, c'est ça, c'est ça.
Du coup, je ne sais pas trop quelle est la question.
Je ne sais plus. On disait la difficulté.
Oui. Mais non, en tout cas, dans ce répertoire qui m'intéresse, bah, c'est pour répondre à votre question de quel est le répertoire que je joue. C'est vrai que voilà, c'est intéressant voilà, en tant que jeune violiste, jeune musicien, d'aller chercher des choses comme ça un peu ailleurs. Encore une fois, grâce à ces accès faciles. De certains manuscrits, ce serait bête de se priver, quoi.
Absolument. Mm-hmm. Deux choses avant de conclure. Vous jouez systématiquement sur des cordes à moyaux ou analogues ou pas? Parce que j'ai appris qu'il y en avait certains qui disaient faire effectivement de la musique baroque, et ils en font, mais malheureusement, ce n'était pas des cordes à moyaux tout le temps.
Oui, alors après, ça c'est... À la viole, en fait, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a en effet jouer... sur des violons modernes, la musique de Bach. À la viole, c'est très différent puisque l'instrument lui-même est ancré dans cette...
Il ne tiendrait pas une corde moderne.
Hein. Non. Enfin, je pense vraiment pas que... ça a dû être essayé à l'époque, mais en tout cas, aujourd'hui, personne ne joue de la viole avec des cordes en métal. Après, il y a des expérimentations qui sont faites...
Moi, c'était pour des gens qui jouaient la guitare baroque, comme ça.
Non, mais ils développent des... Alors, ah oui, pour la guitare baroque, ça, c'est encore différent. Je trouve que c'est... Mais pareil, je ne connais pas.
Là, je parle de la guitare espagnole, hein. C'était, ça m'a étonné. Je dirais pas qui c'est. Micro tout à l'heure.
D'accord.
Voilà.
Ça c'est encore différent. Les cordes en nylon, je crois, sur les luths et tout ça, c'est. Bref, ça pour le coup, je m'y connais pas du tout. Bon, je vais pas me lancer dans le.
Je comprends.
Mais oui, à la viole, on fait ça. Après, par exemple, pour tous les pays très humides en Amérique du Sud et tout, ils développent quand même des cordes en, justement, soit en nylon. Soit je crois qu'il y a de l'expérimentation avec des cordes en soie, il me semble.
Ah oui,
on cherche aussi des choses pour des gens qui ont des sensibilités vis-à-vis
Mais des choses qui ne se faisaient pas forcément à l'époque.
Ah oui, bien sûr. Non, c'est des expérimentations modernes, mais qui se rapprochent d'un son. Et puis surtout qui règlent la question des cordes qui cassent. C'est un certain budget. S'il fait très très humide tout le temps.
Je me rappelle un concert au Pays Basque. Saval, il en a pété deux.
Quand même. Oui, oui.
Ça fait drôle. Hein.
Moi, je suis prof au Pays Basque et je passe quand même un peu mon temps à changer des cordes.
Ah oui, même là-bas.
Dans les périodes de grande pluie. Ouais. Donc, oui, c'est vrai que c'est une vraie question. Et s'il y a une super solution qui fait un son magnifique qui se développe, je pense, tous les violistes.
Et vous faites à la. Comment dirais-je? Vous jouez avec les tablettes ou pas du tout?
Oui, moi c'est sûr que je déchiffre beaucoup sur les tablettes quand on veut voir beaucoup de répertoires. Ça c'est génial quoi, de pas avoir à imprimer des partitions. Ça c'est super utile. Après moi pour l'instant j'ose pas trop faire des concerts sur la tablette, mais j'ai plein de collègues.
Moi les premiers que j'ai vus concerts à tablette c'est des baroqueux.
Ah ouais c'est vrai.
Absolument, je vais souvent embronner. Et c'est une année, pouf, il est sorti de tous les côtés.
D'accord, moi je le vois souvent plutôt dans les quatuors modernes et
oui,
tout
c'est
ça,
vrai,
mais
c'est vrai.
Après c'est excellent par
exemple.
Il y en
a qui sont contre, il y en a qui n'arrivent pas. Je me rappelle d'un grand quatuor français, il était paumé le mec. Il y a un autre qui s'est levé plusieurs fois pour, pour le remettre.
Non, je sais que par exemple pour les concerts en extérieur c'est génial.
Bah oui, bien sûr.
Donc ça a des avantages.
Oui, le vent,
ouais.
Et puis un tourneur qui n'est pas le copain, ça marche pas forcément.
C'est ça.
Et dernier point, avec tous les ensembles dans lesquels vous jouez, vous enregistrez beaucoup? Parce que c'est pas tout vu.
Citez-moi
quelques CD que je puisse diffuser.
Avec mon ensemble, on va sortir un CD en février chez Alpha autour de la musique allemande, de la musique française en Allemagne justement, avec Théodora.
Alpha
donc ça,
fait
c'est...
beaucoup de choses. Hein.
Ouais. Donc ça va être chouette, ça sortira en février si tout va bien. De même avec mon amie violoniste Louise, on a enregistré, c'est son projet pour CVS Château Versailles Spectacle. Aussi de la musique allemande pour le coup, mais là c'est vraiment axé sur le violon soliste. Et puis après, en tant que violiste dans les ensembles un peu de plus grandes envergures, j'ai pu enregistrer Armide avec le poème harmonique, l'Orlando, un CD autour d'Orlando de Lassus avec La Tempête.
D'accord.
Et surtout le poème harmonique et La Tempête, j'ai fait deux CD avec.
La famille Kamboula, ça arrive.
Ouais.
Bon, mais je vous remercie Alice et j'espère qu'on vous retrouvera l'année prochaine.
Eh bien, avec plaisir.
Et voilà, c'était donc la quatrième et dernière émission autour de ce festival de Radio France et Montpellier. J'espère vous avoir intéressé, c'est le but quand même. Vous donner envie d'aller aux prochaines versions. On ne vous a pas donné encore les dates, mais ça ne devrait pas tarder. Et ben voilà, c'est tout. Je remercie donc Alice Trosselier, notre gambiste du jour, qui a interprété pour vous du Marais Marais, puis un extrait avec son ensemble Théodora, et enfin la Passacaille d'Armide. Vous savez, toutes les tragédies lyriques finissaient par une Passacaille, et donc vous l'avez entendu au moins le début, et c'était donc Alice Trosselier était dans l'orchestre de Monsieur Dumestre, et c'est un enregistrement qui date de pas très longtemps. Voilà, je remercie Yann à la technique qui a fait des prouesses comme toutes les fois. Et je remercie la technique complètement au fond qui nous a tous bien fait rire. Voilà, à bientôt, merci.